Après cette bonne introduction, merci pour ce chant de la chorale et relevons la tête, ouvrons nos yeux, reviens à la vie comme ce fils prodigue qui revient vers son père. Je vais prier le Seigneur quelques secondes. Je vais prier, j'aimerais vous demander de vous lever. Nous sommes maintenant dans la semaine de Pâques. Nous sommes en marche. Jésus vient nous rejoindre. Prions. Nous voulons revenir à la vie, Seigneur. Car sans toi, tout est désordre, tout est mystère inconnu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne savons rien. Tu es la clé de la vie, la vérité de la vie. Tu es ce qui tient l'être humain debout. Seigneur, je te prie de nous donner cet après-midi une parole qui réconforte, qui donne de l'espérance par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais donc lire avec vous ce texte qui est dans l'évangile de Luc, la transfiguration est dans Marc, Matthieu, Luc. Nous choisissons Luc. Je lis sur la feuille que vous avez reçue. C'est une parole de Jésus. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. Pour ceux qui ont été présents depuis quelques semaines à ces conférences, vous savez que la semaine dernière, nous avons quitté Moïse dans la traversée du désert. Avec les problèmes du désert, le manque d'eau, les murmures, les serpents, des ennemis extérieurs, enfin, comme notre vie. Et puis ce désert, on ne peut pas s'y étendre trop, il a duré 40 ans. Non pas que Dieu était incapable d'accélérer la marche, mais il freinait la marche. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu qui décide certaines choses, c'est nous. On décide de croire ou de ne pas croire, d'avancer ou de reculer. Ils ont freiné la marche par leur incrédulité. Mais allons plus vite, ils sont arrivés quand même à bon port, ils ont traversé le Jourdain et se sont installés, implantés dans la terre promise au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Et puis l'histoire a passé. Mais avant d'arriver à la transfiguration, juste un petit détail, Moïse est monté sur une montagne et là il a regardé la terre d'Israël, la terre promise. C'est un peu dur. Il n'y est pas entré. Il a commis un geste maladroit, petit manque de confiance. C'est l'homme de la patience exquise. Il a porté Israël pendant 40 ans. Il a 120 ans. Il va mourir sur la montagne. Il va regarder la belle terre promise. Il n'y rentrera jamais. Et c'est Dieu qui va l'enterrer. Étonnant, hein? Dieu va l'enterrer. Eh bien, faisons un bond de 1500 ans. Ça va, vous n'avez pas trop le vertige? Faisons un bond de 1500 ans et nous retrouvons Moïse sur une montagne élevée. La tradition dit que c'est le mont Tabor. Ben, écoutez, nous sommes dans l'église du Tabor, à côté du parc du Tabor, tout est bon pour finir. Le Tabor qui est une assez haute montagne, et là il est avec Élie, un prophète qui a vécu au moins 7 siècles après lui. Il est avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et avec Jésus transfiguré, changé. C'est un grand événement, mes amis, pour notre espérance. C'est un grand événement. Parce qu'il y a là 2 hommes qui étaient morts, qui étaient disparus, Moïse, Élie, et ils sont vivants. Et ils parlent. Et ils bougent. On les disait partis, comme nos bien-aimés, nos parents, notre épouse, notre mari. Et ils sont là, sur la montagne, à côté du Christ. Ce Christ dont le visage resplendit comme le soleil. Le Christ dont les vêtements sont lumineux comme la lumière. C'est important pour notre espérance. Pour moi, je pense que c'est le plus grand événement de l'Évangile au niveau spectaculaire. Le plus grand événement, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Mais quand même, là, il est transformé. Il n'y a pas de détails. On a l'impression que c'est un simple entrefilé de la Bible. En quelques mots, on ne raconte pas les détails, mais c'est une petite fenêtre. La transfiguration, c'est une petite fenêtre, mais par cette fenêtre, je vois la résurrection de Jésus, comment elle sera, je vois ce que nous deviendrons, je vois ce que deviendront ceux qui sont partis dans la mort avant nous, je vois que tous sont vivants et je vois la splendeur finale des croyants dans le Christ. C'est beau, magnifique. Et Jésus est au centre. Entre le passé, Élie, Moïse, ça c'est déjà ancien, et l'avenir, Pierre, Jacques et Jean, pleins de vigueur, les apôtres. Je me suis posé une question, est-ce que cette transfiguration de Jésus a été là pour rassurer les apôtres ? Parce que les apôtres, ils verront Jésus défiguré. Ils verront Jésus maltraité. Et pour les rassurer, J'ai l'impression que le Christ veut leur dire, attention, ne vous fiez pas à ce que vous verrez. En moi, il y a la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu. Voilà ce que va devenir Jésus. Beau comme le soleil. Enfin, je dirais plutôt, voilà ce qu'est Jésus, voilà ce qu'il est. Voilà le Christ qui mange avec vous, mes amis Pierre, Jacques et Jean. Voilà le Christ qui dort à côté de vous. Voilà le Christ qui guérit les malades sur vos chemins. Voilà le Christ qui libère les captifs et qui sera humilié, qui sera frappé, fouetté. Voilà le Christ. Intérieurement, il est d'une beauté que je ne connais pas. La beauté de Dieu en lui. Pierre, Jacques et Jean sont éblouis par cette splendeur. Ils connaissent Jésus qui n'avait pas de beauté particulière, qui n'avait pas d'éclat, et là ils le voient éclatant, beau. Mais cette beauté, elle n'est pas absente de la vie de Jésus. C'est qu'on ne la voit pas. Nos yeux sont empêchés de la voir. Il s'en est défait comme on enlève un vêtement. Il s'en est défait pour quelques mois. Il s'en est défait un moment. Mais cette beauté est toujours en lui. Mais nos yeux ne peuvent pas la voir. Et parfois, quand nos yeux ne voient pas, on dit « ça n'existe pas ». Et voilà, Jésus lève le voile. Moïse pouvait quand même se demander pourquoi le Seigneur de la mer Rouge, pourquoi le Seigneur qui parlait dans le buisson ardent, le Seigneur tellement grand, pourquoi a-t-il vécu un tel abaissement? Pourquoi a-t-il vécu une telle pauvreté, une telle faiblesse, une telle misère? Lui, le Seigneur de la mer Rouge. On peut continuer? Son visage resplendit. Ça veut dire que la lumière vient de lui. Là, vous voyez un peu de lumière sur mon visage. Elle peut être bleue selon les vitraux, mais cette lumière, elle n'est pas en moi. Elle vient de l'extérieur, elle vient du soleil. La lumière, elle sort de lui. C'est sa propre lumière. La lumière, ça veut dire qu'il se montre. Quand on dit Dieu est lumière, on imagine la lumière du soleil. Mais ça veut surtout dire Dieu se montre. Il est visible, il éclaire les autres. Jésus disait, je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme, en grec, tout l'homme. Le corps, l'âme, l'esprit, les pensées, les sentiments, les péchés, le bien, le mal. J'éclaire tout. Plus tard, l'apôtre Jean, qui est sur la transfiguration, là, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il verra Jésus ressuscité comme il est à l'heure où je vous parle dans le ciel, et il verra Jésus avec un visage qui brille comme la force du soleil. Surprenant. Et quand l'apôtre Jean verra ce Christ ressuscité, il tombera aux pieds de Jésus comme mort, plaqué au sol. Ici, personne n'est terrassé. À la transfiguration, même les apôtres ont envie de dormir, ils sont fatigués, ils bâillent, ils sont épuisés. La transfiguration a eu lieu pendant qu'il priait. Jésus emmène ses apôtres sur une haute montagne et puis il a prié devant eux. Et pendant qu'il priait, son visage se change. On le reconnaît toujours, mais il est changé. C'est comme l'enfant qu'on voit quand il a 30 ans plus tard, On voit bien que c'est lui, mais il a changé. Peut-être que ça nous montre les effets de la prière. La prière nous transfigure, nous transforme. La prière ne change pas tout, mais elle nous change. On ne voit pas les choses de la même façon quand on s'assoit à côté de Dieu. Alors, à la transfiguration, Jésus accueille ses amis, pas tous, mais trois. Ses amis dans sa vie intime, sa vie avec le Père, pour que ses amis, Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils participent. On n'est pas des ballots que Dieu prend et que Dieu met là. On est participants, on vit avec lui, on mange avec lui, on mourra avec lui, on sera toujours avec lui. Il veut que ses amis le voient vraiment et participent à sa splendeur. Et puis, je crois que le Christ, il veut que Moïse, on revient à Moïse, que Moïse voit jusqu'où ira son exode. Jusqu'où va aller cette histoire de buissons ardents, de mer rouge, de traversée du désert. Quelles seront les conséquences, la suite? Quand Dieu disait à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu en Égypte pour le délivrer et le faire remonter. » Eh bien, Moïse voit que, il voit que Jésus est descendu, Dieu est descendu et il est resté. Il est là. Le Dieu du buisson ardent, vraiment descendu et resté avec nous. Quelle espérance. On ne parle pas dans ce récit, j'aurais voulu tant savoir. Je reste sur ma faim. J'aurais voulu savoir comment étaient ses cheveux, son visage, ses yeux, son regard. On ne sait pas. Ah, on parle de la blancheur de ses vêtements. C'est étonnant quand même. On parle que ses vêtements sont devenus comme lui. Ils sont devenus transparents à une lumière qui venait de l'intérieur. Parce que une lumière, enfin je dirais Dieu, transparaît à travers lui. Une lumière sort par ses vêtements. Comme pour nous dire, tout ce qui appartient à Jésus sera transfiguré. Le cosmos, l'univers sera transfiguré. C'est écrit dans l'Épître aux Romains. Nos corps, nos esprits, tout sera transfiguré, transformé. Pas encore. Les apôtres, quand ils vont quitter la montagne de la transfiguration, ils ne sont pas tout lumineux, ils sont toujours les mêmes. Mais un jour, tous les vêtements, nos vies, nos œuvres, tout ce qu'on a fait de bien, tout sera transfiguré. Alors, nous voilà avec Moïse et Élie. Quelle compagnie! Ces deux hommes ont rencontré Dieu sur le mont Sinaï, les deux, pas en même temps. Mais revenons et restons avec Moïse. Là, Moïse, il n'est pas devant un buisson ardent où il voit du feu et il ne distingue pas bien. Il voit vraiment le Seigneur qui était dans le buisson ardent. Il voit le Seigneur qui lui disait « Parle à mon peuple, parle à Pharaon, et tu lui diras « Je suis celui qui suis, c'est mon nom, je suis, vous parle. » Il le voit. Lui qui, dans le désert, disait à Dieu un jour une prière un peu folle, « Seigneur, montre-moi ta face, montre-moi ton visage. » Et Dieu a dit, tu me verras de dos, tu vas te cacher dans le creux d'un rocher, je mettrai ma main sur toi, mais tu ne me verras pas de face. Et là, le Moïse en question, il voit le Seigneur du Sinaï, il le voit face à face, face à face. Lui qui donne la vie aux morts et qui ne disparaîtra jamais, le Christ. Il voit enfin cette gloire de Dieu, il voit le véritable agneau de Dieu. Vous savez qu'en sortant d'Égypte, les premiers-nés sont morts en Égypte, parce que l'Égypte bloquait, fermait, verrouillait, et Dieu a envoyé une plaie terrible, les premiers-nés sont morts. Et pour que les Juifs, eux, les enfants d'Israël, ne subissent pas la même peine, il fallait égorger un agneau et mettre du sang sur la porte pour dire « Chez nous, c'est réglé. Quelqu'un est mort à la place du premier-né, l'agneau. » L'agneau de Pâques qu'on mangeait à la nouvelle lune du printemps, pour nous, ce serait mardi prochain. La nouvelle lune, c'est mardi. La pleine lune, pardon. La pleine lune. Eh bien, l'agneau qui permet d'être épargné, d'être sauvé, ce n'est pas un mouton, finalement. C'est Jésus. C'est lui, le véritable sauveur. Et puis, ce rocher, vous savez, ce rocher sur lequel Moïse a frappé pour que le peuple puisse avoir de l'eau à boire dans le désert, ce rocher où il a frappé comme un sourd, il est là. Ce rocher, c'était le Christ. Tout est là devant Moïse. Il avait des gestes symboliques, mais toute la réalité, elle est devant lui, à la montagne de la Transfiguration. Tout cela, c'est Jésus. Alors voyez-vous, l'heure n'est plus de manger l'agneau. Enfin, mangez quand même de l'agneau à Pâques si vous voulez, c'est pas mauvais. L'heure n'est plus de manger l'agneau pascal, mais l'heure, c'est de le connaître, lui, le Christ, le véritable. Alors Élie et Moïse s'entretiennent avec Jésus. J'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Devant le Christ métamorphosé, transformé, j'aurais même pas le courage de dire un mot. Je crois que je serais tout confondu et j'oserais pas lever la main. Et voilà que Moïse et Élie, ils discutent. Je dis bien discuter. Sur un ton banal. On a l'impression que ça se fait naturellement. Ça en passe des choses là-haut quand même. De quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Il parle du départ de Jésus. Littéralement, de l'exode de Jésus. De l'exode de Jésus. Jésus va se mettre en marche et il va entraîner avec lui tout un peuple, quelques milliards d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. Il va les entraîner par sa mort, par sa résurrection. Il va les entraîner, il va les conduire chez son Père. Élie et Moïse discutent avec Jésus de l'exode, encore un exode. Notre exode. Je suis dans la liste, je suis dans le cortège. Je regarde Jésus de loin, mais je suis dans le cortège. Et vous aussi, j'espère. Regardez bien cette histoire. Moïse, il est devant le vrai Moïse. Parce que le vrai libérateur qui conduit son peuple dans l'exode, le vrai libérateur, c'est pas Moïse, c'est Jésus. Le vrai pasteur de l'Église, c'est Jésus. La vraie lumière de l'Église, c'est Jésus. La vraie porte de l'Église, c'est Jésus. Mais comment les apôtres ont-ils reconnu Élie et Moïse? Ils ne les ont jamais vus. Ils en ont entendu parler, évidemment, comme moi j'en ai entendu parler. Je lis l'histoire, mais ils n'ont jamais vu Moïse, ils n'ont jamais vu Élie, et ils le reconnaissent. Quel mystère! On me la pose à chaque fois la question. Est-ce que, pasteur, nous nous reconnaîtrons? Jésus dit, vous serez assis à côté d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça veut dire... On ne cherchera pas qui est Abraham ici. On saura qui est Abraham. Qui est Jacob? Qui est Moïse? La seule conversation qu'ils ont avec Jésus, c'est ce passage qu'il va ouvrir pour nous conduire vers Dieu. Cette Pâque, voilà, on y est bientôt à Pâques. Cette Pâque, ça veut dire passage. Ce passage, cette Pâque, c'est ça qui les intéresse. Et de quoi je parle? De quoi parlent les hommes d'Église, les hommes de l'Évangile? Nous parlons surtout, prioritairement, principalement, nous parlons sur la mort et la résurrection de Jésus. La brèche, le passage, la Pâque, ils en parlent. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils s'entretiennent comme des amis, ils s'entretiennent tout simplement, ils s'entretiennent de la plus grande beauté du monde. La plus grande beauté, c'est l'abaissement de Dieu et la transformation de l'homme. Il n'y a pas plus beau. Parce que là, l'être humain, tout être humain est concerné. C'est tellement beau que Pierre se distingue un peu. Il va dire, on veut te retenir, Moïse, on veut te retenir, Élie. On va faire trois tentes, trois cabanes, comme au désert. Les apôtres, écoutez bien, parlent de cabane à celui, Moïse, à celui qui a construit le tabernacle, ce temple portable, démontable, d'une beauté splendide, qui a été dans le désert pendant 40 ans, ce temple démontable, il parle de cabane au grand constructeur de la maison de Dieu du désert. Enfin, ils sont tellement émerveillés, hein. Ils ont peur, mais ils voudraient retenir Jésus. Ils voudraient retenir comme il est, Moïse, Élie, Pierre. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être fatigué parfois, d'être fatigué des gens, fatigué de la pauvreté que nous voyons autour de nous, morale, spirituelle, mais physique encore plus. Et parfois, on n'aurait pas envie de retourner dans l'agitation, dans le tourbillon, dans des conversations qui sont plates. Écoutez, les apôtres voudraient rester là-haut. Ils sont en train de dire tout simplement à Jésus, « Seigneur, fais que notre joie demeure, fais que ça dure encore et qu'on soit à l'écart d'un monde quand même difficile. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. C'est ce que dit l'Évangile. Il dit ça, mais il ne savait pas parce qu'il avait peur et ne comprenait pas très bien. Mais écoutez, mes amis, il voudrait rester là-haut combien de temps? 3 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans? Notre espérance, ce n'est pas de prolonger notre vie. Ce n'est pas de prolonger notre vie telle qu'elle est sous des cabanes. Notre espérance, c'est d'être avec le Seigneur, comme lui, avec lui, pour toujours. Et pas se contenter d'une cabane. Alors, Pierre, tu désires te reposer là-haut, descends de ta montagne pour servir sur la terre. Descends, Pierre, de ta montagne pour souffrir pour le Christ, pour mourir pour le Christ. Il y a du chemin à faire. Descends, Pierre, on t'attend. Pierre dit, je suis bien ici. Et voici qu'une nuée est venue, un nuage. Ce même nuage qui a accompagné le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, cette nuée lumineuse, voilà qu'elle est de retour. Et voilà qu'elle enveloppe tout le monde. Pierre, ce n'est pas la peine que tu fasses une cabane. Dieu lui-même est là, il t'enveloppe, il te protège. Souvent, on fait des cabanes avec des religions, mais le Seigneur t'entoure, te guide comme il a guidé Israël pendant 40 ans. Il te protège. Dieu se fait proche par ce nuage lumineux, Dieu le Père se fait proche de nos trois apôtres qui ont envie de dormir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à ce point de lui? Ce nuage lumineux, j'y ai pensé encore hier soir, je me dis, peut-être qu'il a éclairé toute la région. Peut-être qu'on le voyait à 200 km à la ronde, je ne sais pas. J'invente, hein. C'est pas écrit, je ne sais pas. Une nuée lumineuse. Et de cette nuée, une voix est sortie. Voici mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. Comme si Dieu disait, je n'ai pas d'autre vérité que lui. Je n'ai pas d'autre chemin que lui. Je n'ai rien à vous offrir que lui. Je n'ai pas d'autre secours à vous donner que lui. Écoutez-le. L'impression que Dieu va se taire. L'impression que le Père va être silencieux et que Jésus parlera pour le Père. Il parlera du Père. Et c'est vrai qu'il nous conduit vers le Père. Alors voyez-vous, le Tabor, si c'est le Tabor, le Tabor et le Sinaï, pour conclure, sont deux montagnes de la manifestation de Dieu. On ne peut pas imiter ça. On peut rien faire là. Simplement, il nous faut accueillir cette belle espérance. Jésus, la montagne est toujours là, mais la nuée est partie, Moïse est parti, Élie est parti, et bientôt moi je vais partir aussi, la réunion sera finie. Il reste que Jésus, qui a repris son visage normal, qui a repris ses vêtements. Il ne reste que lui, mais c'est ce Jésus-là qu'il faut écouter. C'est ce Jésus des évangiles. C'est le Jésus qui se penche sur la fille de Jaïrus. C'est le Jésus qui se laisse toucher par un lépreux. Celui-là, il faut l'écouter, parce que c'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes, des femmes, des malades, des mourants. Jésus est le seul lieu où Dieu se manifeste. Le seul lieu sur terre où il se manifeste. Personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus. Et la terre promise, on conclut. Cette terre promise que je ne connais pas encore, Israël, ou que Moïse a vu de loin avec ses oliviers, ses vignes, le lait, le miel. À quoi ça servirait une terre promise si c'est pour se suicider? À quoi ça servirait une terre promise si on se dévore les uns les autres? À quoi ça servirait si notre cœur n'est pas changé? Quand Abraham est arrivé en terre promise, il y a longtemps, il a posé ses bagages. Vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé la cité, la ville qui est dans le ciel. Comme s'il n'était pas encore satisfait, il voulait aller encore plus loin. Il a regardé la cité qui est dans le ciel. Et je pense que cette terre promise, certainement ce fut Israël, bien sûr, mais pour nous, la terre promise ne serait-ce pas notre vie transformée? Tout ce que nous serons et qui n'a pas encore été manifesté. Tout ce que nous serons demain. Parce que, permettez-moi de vous dire ce qui pour moi est la motivation la plus importante de toute mon existence. Sans cela, je ne suis rien. Permettez-moi de vous dire que la transfiguration de Jésus qui change extérieurement, elle est déjà commencée chez nous. Elle est commencée, et l'apôtre saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand nous contemplons le Seigneur, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transfigurés. Il prend le mot transfiguré. Nous sommes transfigurés à son image. C'est commencé. Quand nous regardons le Seigneur, nous sommes transfigurés. En regardant Jésus, en écoutant Jésus, nous reflétons sa lumière. Nous reflétons toujours ce que nous contemplons. Ceux qui regardent sans cesse des images porno ou des images de violence finissent par refléter ce qu'ils regardent. Nous reflétons ce que nous regardons. Il y a un chrétien du XIIe siècle qui a inventé un mot. Et le mot, vous le connaissez, c'est un mot grec, vous connaissez le grec, c'est le mot photographie. Vous connaissez ce mot ? Photographie. Parce qu'il parlait de la lumière du Seigneur, à la transfiguration, la lumière du Seigneur qui s'écrit en nous. Photographie, la photo qui s'écrit en nous, la lumière qui s'écrit en nous. C'est beau. Et je pense que quand on a les regards fixés sur Jésus, nous devenons semblables à lui. Et quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Alors, nous concluons. Moïse, qui est devenu la terre promise, ton exode, tes souffrances, le buisson ardent, la mer rouge. Ben voilà, un petit échantillon, Pierre, Jacques et Jean, qui vont bondir dans le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle et pour aller délivrer d'Égypte, enfin, de la misère, de la détresse, de l'alcoolisme, de toutes les passions, de tout ce qui détruit l'être humain, ils vont aller délivrer les êtres humains pour les faire monter vers Dieu. Mais quand même, quand je vois Jésus qui est transfiguré, je ne peux pas faire autrement que de penser qu'il y a en nous une beauté cachée, quelque chose en nous, une beauté inépuisable. Une beauté secrète. Souvent, on voit des gens diminuer. Nous diminuerons tous. Quand je vois Jésus, je me dis, il y a en nous une ressource phénoménale de transformation. Oui, aujourd'hui, disait l'apôtre, nous sommes des vases de terre, fragiles, mais nous portons un trésor. C'est le Christ qui vit en nous, et nous brillerons de la même beauté. Nous serons comme lui. Eh bien, le mot de la fin. Je ne suis pas heureux que ça finisse, mais je suis heureux que vous soyez là. Que le Dieu du buisson ardent, qui s'appelle Jésus-Christ, nous attire à lui. Que le Dieu de la mer rouge nous ouvre un passage vers notre vie prévue, notre vie donnée par Dieu. Que le Dieu, que le Seigneur de la traversée du désert nous aide à survivre à toutes les pesanteurs, à toutes les craintes d'aujourd'hui, à toutes les tristesses familiales, à tous les dangers de la terre. Regardons vers le Christ. Reviens à la vie. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Amen. Je prie le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Ni dans cette vie, ni dans la mort, ni après. Tu l'as juré. Tu l'as juré devant des témoins, toi le Seigneur, que jamais tu ne nous abandonneras. Alors devant ce Christ transformé pour nous montrer notre transformation, garde-nous dans l'espérance, dans la joie, dans la foi, dans la prière, et aide-nous à marcher dans ce chemin vers Pâques, notre Pâques. Et la tienne, au nom de Jésus. Amen. Quelques secondes pour rentrer un peu en soi-même. Il n'y a qu'une porte, il ne faut pas passer à côté. il n'y a qu'un seul sauveur, il ne faut pas passer à côté. Pâques, c'est quand même la plus belle fête. Dieu qui vient prendre en main l'humanité pour la faire monter. C'est beau. Hein? Et au dernier jour, il nous prendra tous. Tous ceux qui auront aimé et espéré en lui. Nous allons chanter un cantique.